dévorée par les flammes, défigurée mais encore debout. Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie hier soir, mais les pompiers ont apparemment sauvé la structure de l'édifice. Un bâtiment classé au patrimoine de l'UNESCO, l'un des plus visités au monde, cette cathédrale. Vous la connaissez comme votre poche, Mathieu Lourse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'architecture religieuse, enseignant à l'université de Cergy, auteur du dictionnaire des cathédrales. Quand vous avez appris la nouvelle hier soir, vous n'étiez pas loin, tout près, à quelques centaines de mètres, et vous avez assisté à tout.
Voilà, j'ai tout vu à peu près, du début jusqu'à la fin. Et c'était absolument impressionnant, des images qu'on n'aimerait pas voir quand on est historien de l'architecture. Et en même temps, on sait qu'elles ont eu lieu dans les siècles passés. C'est très étonnant comme situation.
Quand on voit ces monuments, ils sont si vieux qu'on a l'impression qu'ils sont là pour toujours. Ben non, ils sont fragiles aussi.
Exactement.
Ils sont fragiles, ils peuvent partir en fumée comme ça, en quelques secondes.
C'est arrivé à plusieurs étapes de leur histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir qu'à chaque fois, ils renaissent de leurs cendres, généralement.
C'est possible ça. Malgré les gros dégâts, on a vu hein, la charpente là, il n'y a plus rien quoi.
Il n'y a plus rien, mais les voûtes, notamment les voûtes gothiques, certes elles sont crevées par endroits, mais elles ont joué leur rôle, qui est justement le rôle d'isoler l'édifice d'un incendie de charpente.
Ça c'est ce que vous avez pu constater de l'extérieur.
Je l'ai vu de l'extérieur quand j'ai vu qu'à la base, que les flammes partaient à peu près du niveau des voûtes, j'ai compris qu'elles n'étaient pas irrémédiablement écroulées.
D'accord.
Mais évidemment, tant que j'aurais pas vu l'intérieur de l'édifice, il sera difficile de juger. En tout cas, les dégâts sont énormes.
Vous allez essayer d'y aller dans les prochains jours?
Peut-être pas. Je crois que les équipes ont autre chose à faire que de laisser entrer les...
Jusqu'à présent, rien n'avait autant agressé ce bâtiment quasi millénaire.
Eh bien non, Notre-Dame avait vraiment échappé à tous ces drames. On n'avait pas eu d'incendie, la charpente était encore une charpente du 12e, 13e siècle, des plus vieilles de Paris, une des plus vieilles de France. Et elle avait échappé également au bombardement de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas partie de ces cathédrales martyrs comme Reims, comme Rouen par exemple.
Aucun incendie. Aucun à part dans l'imaginaire de Victor Hugo.
Voilà, ou si ce n'est des incendies minimes, rapidement maîtrisés. Mais en tout cas, pas d'incendie qui avait vraiment infléchi l'histoire du monument dans de telles proportions que ce qu'on a vécu hier soir.
Notre-Dame de Paris, ce n'est pas la cathédrale la plus grande de France, ce n'est pas la plus haute, ce n'est pas la plus vieille. Qu'est-ce qui la rend unique?
C'est qu'elle est emblématique. C'est que déjà au XVIIIe siècle, les chanoines de Notre-Dame disaient « cette église est la paroisse de la nation ». Parce que c'est là que les corps de l'État, le roi, les parlements, tous les corps constitués parisiens assistaient aux grandes cérémonies qui faisaient vibrer le pays entier. Les tédéum pour les victoires, les pompes funèbres pour les grands décès. Et ça s'est vraiment perpétué jusqu'à nos jours.
Mais ça c'est notre histoire à nous, qu'est-ce qui fait qu'elle est si connue à travers le monde?
Alors elle est devenue une icône de cathédrale, notamment grâce à Victor Hugo qui en 1831 publie Notre-Dame de Paris et grâce à tout ce que j'appellerais les produits dérivés de Notre-Dame de Paris. Dessins animés, comédies musicales. Et Notre-Dame c'est une image. C'est une image, une des images les plus diffusées également sur les réseaux sociaux. Toute personne venant à Paris s'arrête sur le pont de la Tournelle, prend en photo l'abside de Notre-Dame. Et c'est donc une image iconique qui est ici brisée et qu'il va falloir reconstruire à l'identique.
C'est cette cathédrale qui vous a donné, envie de faire de l'histoire peut-être, ou de vous intéresser tout particulièrement aux cathédrales?
Alors, c'est pas exactement celle-là. Il y en avait une plus proche de mon lieu de vacances quand j'étais enfant. Mais il y a une image qui est forte, qui sont les roses de Notre-Dame. Ça, véritablement.
Les roses.
Les grandes rosaces. Quand j'étais enfant, c'est vraiment une des choses qui m'a fasciné. Comment on arrivait à faire tenir ça? Voilà. Et elles tiennent toujours.
Et vous, le spécialiste donc de l'architecture religieuse, qu'est-ce qu'elle a de si particulier au niveau de l'architecture, cette cathédrale?
Alors, du point de vue de l'architecture, elle est passionnante parce qu'elle fait le lien entre le premier gothique, c'est l'une des premières cathédrales gothiques, commencée en 1163, et puis le gothique rayonnant. C'est-à-dire qu'elle a été façonnée à mesure que le gothique se transformait, évoluait, et qu'au XIXe siècle, elle a été repensée par cet architecte de génie, Eugène Viollet-le-Duc, en fonction de l'idée qu'on se faisait du Moyen-Âge au XIXe.
Et on sait, quand il l'a reconstruit justement, quand il l'a aménagé, il y a eu des gens qui n'étaient pas tellement d'accord aussi avec ce qu'il a fait quand même à l'époque.
Bien évidemment, mais toute création crée polémique. Et le gothique lui-même est un art polémique lorsqu'il apparaît au XIIe siècle. Et le génie de Viollet-le-Duc, c'est d'avoir réussi à garder l'essentiel de l'héritage médiéval tout en y imprimant l'esprit de son temps.
Est-ce qu'on saura reconstruire cette cathédrale telle qu'elle a été construite avec le savoir-faire du XIIe ou du XIIIe siècle?
Alors, là, évidemment, on ne pourra pas restituer une charpente de cette époque-là. Ça, c'est terminé pour la charpente d'origine.
D'abord parce qu'on n'a pas la matière première, c'est ça? On n'a pas des arbres aussi vieux.
Mais ce ne seraient pas les mêmes. Voilà, donc la charpente, là, c'est malheureusement fini. Mais quant à une restitution à l'identique, c'est peut-être possible. En tout cas, nous avons des savoir-faire en France qu'il faut défendre. Maintenant, est-ce que nous avons assez d'artisans, d'ouvriers de qualité pour reconstruire rapidement, je n'en sais rien, mais ça sera fait, et ça sera fait dans les règles de l'art. J'ai vraiment confiance en les services qui s'occupent de cette cathédrale.
Mais ça va être un chantier monumental.
Un chantier monumental, oui. Quelque chose qui va sans doute catalyser les énergies et rayonner, je l'espère, sur tout le patrimoine religieux qui, en France, subit parfois les flammes de l'indifférence. Pour une Notre-Dame qui brûle et au chevet duquel, de laquelle on accourt, combien d'églises qui dépérissent ?
Et pour la reconstruire, est-ce qu'on dispose de plans, de tout dans les moindres détails, le moindre recoin a été, j'imagine, pris en photo, on peut vraiment tout refaire parfaitement ?
Oui, parce que Notre-Dame était en cours de restauration. Donc, les services compétents ont tous les relevés de l'état antérieur. C'est un état antérieur parfaitement connu. Donc, c'est une reconstruction qui, finalement, ressemble un peu à une reconstruction qui aurait lieu après une guerre. Et on a su le faire à Reims, on a su le faire à Rouen et on saura le faire à Paris.
D'ailleurs, pourquoi y avait-il des travaux actuellement ?
Alors, il y avait des travaux parce que Notre-Dame était en moins bon état qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire qu'il y avait des lésions sur l'édifice, notamment sur les toitures, sur les parties hautes. Et il y avait beaucoup de choses à reprendre. Et la cathédrale avait déjà attiré un mécénat important. Et donc, ces grands travaux s'apprêtaient à être le couronnement des festivités des 850 ans de la cathédrale actuelle. D'ailleurs, on a vu cet énorme échafaudage qui reste aujourd'hui suspendu au-dessus de la béance du chœur. Justement, ces travaux pourront sans doute permettre d'assurer la continuité avec ce qui s'annonce et qui est un chantier colossal.
Vous parliez de l'échafaudage, hein, d'après les premières constatations des pompiers, hein, ce n'est qu'une piste, mais pour le moment c'est la principale. Voilà, ce serait peut-être justement de là qu'est parti l'incendie. Ça arrive ça sur d'autres bâtiments que des incendies partent des travaux, des échafaudages ?
Alors ça peut arriver et ça arrivait déjà au Moyen-Âge, à la cathédrale de Chartres, 1194, la cathédrale romane brûle justement à cause de ce qui se passait sous la charpente, sans doute des travaux. Et c'est arrivé effectivement avant, après les travaux. Si on prend les grands édifices qui ont brûlé ces dernières années, l'église Saint-Donatien de Nantes par exemple, ou encore le château de Lunéville, sont des édifices qui étaient des édifices où il y avait des travaux. Maintenant, évidemment, on ne peut pas encore trop savoir.
Non, on va attendre le résultat de l'enquête. Il y a le bâtiment, ça c'est une chose qu'il va falloir réparer, mais vous le disiez, ça c'est faisable. Il y a tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, ça va être plus compliqué ?
Alors, ça va être plus compliqué. Encore une fois, je n'ai pas le bilan. Je sais que d'énormes efforts ont été faits. Une chaîne humaine a permis de mettre à l'abri des éléments très précieux de l'intérieur de la cathédrale.
Une chaîne humaine hier soir ?
Apparemment, qui a permis, avec le personnel de cathédrale, des gens qui étaient présents, de mettre à l'abri certains objets. Ce qui est irrémédiablement perdu, ce sont les reliques qui étaient dans le coq de la flèche. Une relique de Saint-Denis, une relique de Sainte-Geneviève et un fragment de la vraie croix.
Là, on ne parle pas de la couronne d'épines ou
Non. Les saintes reliques, couronne d'épines, sont normalement à l'abri.
D'accord. C'était d'autres reliques qui se trouvaient là-haut, c'est ça ?
Un fragment de la couronne qui avait été placé en 1935 par l'archevêque de Paris dans le coq de la flèche, comme c'était le cas probablement au Moyen-Âge. Et là, ces reliques sont maintenant cendres parmi les cendres. Et je pense que là, qu'il y a, sauf redécouverte miraculeuse, mais là, vraiment, c'est très difficile.
Et il y a l'orgue aussi, monumental.
Pour l'orgue, évidemment, un tel dégagement de chaleur, un tel choc thermique sur un orgue de cette importance... Il ne faut préjuger de rien, mais il y aura forcément des travaux immenses pour le remettre en souffle et le faire parler à nouveau.
Merci beaucoup Mathieu Lourse d'être venu ce matin dans le 5-7 de France Inter. Je rappelle que vous êtes historien de l'architecture religieuse et auteur du Dictionnaire des cathédrales, un livre qui a été publié chez Grasset. Merci beaucoup. Chez Gisro, le Dictionnaire des cathédrales. Avec votre nom, on trouvera plus facilement Mathieu Lourse. Dans 20 minutes, nouvel invité de ce 5-7 pour parler, cette fois, on l'a évoqué, de Notre-Dame de Paris dans la littérature. Nous serons avec un spécialiste du 19e siècle et de Victor Hugo en particulier, Henri Sépi. Il est enseignant à la Sorbonne Nouvelle. Il est 6h29.